Sud Radio, il est 1h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Et en compagnie de Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des Quartiers Populaires, Cédric Nouvelot, conseiller régional de Normandie, Jérôme Dubu, qu'on salue à nouveau, membre du pôle Idées d'Horizon, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de « Aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire » avec un point d'interrogation à la fin, faut préciser. Aux éditions Michel Lafon. On faisait le tour des coups de cœur et des coups de gueule. C'est un nouveau coup de cœur. On enchaîne avec vous, Cédric, sur ce qui s'est passé hier, les investissements en France.
Oui, alors c'est pas tellement sur ce qui s'est passé hier, mais voilà, j'ai décidé d'être positif ce matin. Et c'est pas tellement sur Macron en majesté à Versailles. On sait qu'il adore ce rôle-là, on sait qu'il aime beaucoup quand il est dans ce rôle-là, mais il faut avouer qu'effectivement, en ce moment, on a plutôt un retour des investissements en France. Alors c'est l'action combinée, des entreprises, de l'État, des régions aussi. Moi, je veux bien en région Normandie, on a une très forte croissance des investissements étrangers qui arrivent dans
Parce que les auditeurs savent pas que les régions, enfin peut-être oublient, qu'ont un vrai levier sur le plan économique.
Elles sont effectivement en charge du développement économique sur leur territoire et elles ont une action très importante. Que ce soit on le vit dans toutes les régions de France. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. 15 milliards d'investissements promis, c'est pas mal. Alors après, moi, je suis pas dupe des effets d'annonce. On est évidemment à un mois des européennes, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une volonté au moins de remettre l'entreprise au cœur un peu du village France, qui est quand même pas mal, parce que pendant un moment on avait un peu laissé ça de côté. On a quand même perdu 2 millions d'emplois industriels dans les dernières 20 ans, donc c'est quand même important de pouvoir réindustrialiser. Alors je me méfie toujours de la réindustrialisation, parce qu'on est sur des emplois différents maintenant, on va être des emplois plus qualifiés, automatisé, intelligence artificielle, on est sur des secteurs un petit peu différents. Mais ceci dit, c'est bien de renouer quand même avec l'entreprise. L'entreprise se réintéresse à notre pays, et ça c'est plutôt une bonne chose. Faut reconnaître là que Macron, dans son rôle de banquier d'affaires, est plutôt efficace dans ce domaine-là. Autant je suis critique sur pas mal de sujets, mais là sur celui-là, il est plutôt pas mal. On attire de nouveau, et puis encore une fois, je pense qu'on aura besoin de ces investissements. Alors il y a un problème par contre qui reste. Moi je suis industriel, je travaille dans le secteur de l'aéronautique. On a un vrai sujet, c'est qu'on trouve pas les compétences. Donc c'est bien des investissements, mais il va falloir former, il va falloir réorienter les jeunes et les moins jeunes, parce que maintenant on fait des parcours de carrière très différents, mais vers ces métiers qui sont très beaux, où il y a des vraies possibilités de carrière, mais on manque de personnel, et dans tous les métiers, de l'ingénieur jusqu'à l'ajusteur, au chaudronnier, enfin on n'a pas du tout les compétences qui vont bien. C'est ce qui manque aujourd'hui aux entreprises. Donc là il va falloir vraiment faire quelque chose de fort. Je regrette que l'État ait repris la partie apprentissage que les régions avaient et qu'elles géraient très bien, qui avaient donné des excellents résultats. Mais là aussi, comme souvent, l'État avait souhaité reprendre une certaine compétence. Je pense que quand une collectivité ou quand un niveau, une strate en tout cas, gère bien les choses, il vaut mieux lui laisser plutôt que de vouloir les récupérer. Je pense que l'État a quand même d'autres choses à faire.
D'autant plus que les régions sont au plus près des entreprises.
Exactement, il y avait un lien avec les entreprises. Avec les centres de formation également. Donc voilà, il y a une logique.
Alors, je vais circuler parce que Brice, vous vouliez intervenir sur ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec le fait que ce soit un événement positif. Après, quand on regarde la structure des 15 milliards, il y a quand même 4 milliards pour Microsoft. Donc, on voit aussi quand même qu'il y a le sujet de champions américains qui s'installent en France, etc. Au moment où on fait les élections européennes, on peut quand même se dire qu'on fait pas forcément la promotion de grandes entreprises européennes et françaises. Donc là, c'est pas l'objet, parce que c'est les investissements.
Que nous si Microsoft s'installait en Allemagne.
Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt positif. Mais attention à notre souveraineté.
Faire venir des entreprises étrangères.
Attention à notre souveraineté, et notamment notre souveraineté numérique.
Deux remarques sur ce qui vient d'être dit. D'abord, Choose France, parce que c'est ce qui est en cause.
C'est ce qui permet. Il y a cet événement et du coup, on en profite pour faire un focus.
Ça a toujours lieu vers le 15 mai, donc ça n'a strictement rien à voir avec le calendrier des élections européennes. Premier point.
Il faut le dire.
C'est depuis 7 ans, ça a toujours lieu à ce moment-là. Bon, élection européenne, élection présidentielle, peu importe, ça a toujours lieu à ce moment-là. Deuxième point sur l'apprentissage. Moi, je suis désolé, c'est quand même le gouvernement ou le président, peu importe, qui a débloqué l'apprentissage en France. Prenez les chiffres en 2017, vous verrez qu'on était largement en dessous de l'Allemagne. On était à 350 000 apprentis.
Oui, on regardait le modèle allemand avec
on est aujourd'hui à 650 000, à 700 000. Alors, on peut décortiquer, si vous voulez, la structure de l'apprentissage en France en disant c'est l'apprentissage haut de gamme, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de haut de gamme ni de bas de gamme dans l'apprentissage. Mais enfin, c'est l'apprentissage du supérieur universitaire qui a surtout bénéficié de cette explosion de l'apprentissage. Et ça a été fait. Alors je regrette effectivement que les régions ne soient plus dans le coup, mais Il le fallait.
Ah mais c'est pas depuis que c'est passé à l'État que ça a dynamisé. Hein. Ça
ah avait... si.
Non, pas du tout. Ça avait commencé avant. Non, c'est pas vrai.
Mais
la
non,
plus grosse dynamique, elle a été générée avec les régions.
On
c'est pas vrai.
On se traînait à 300 000
Ça c'est avant.
Ça
c'était avant. Tu remontes à il y a 10 ans. Non, c'est pas vrai.
L'Allemagne en fait 1 million, si vous voulez. Donc on a petit à petit.
Il faut pas minimiser.
Là, on vient de rogner sur les aides à l'apprentissage et l'alternance.
Exactement. Donc
parce qu'il faut regarder ce qui est utile et ce qui est pas utile. C'est comme toujours. Donc, moi, sur l'apprentissage, je suis désolé. Moi, on peut critiquer, comme sur la formation professionnelle, on peut critiquer ce gouvernement sur tout un tas de sujets, mais sur celui-là, il a complètement débloqué le système.
Oui, alors, puisqu'on parle d'apprentissage de formation et sur le fait d'avoir renié le budget des universités, de l'enseignement supérieur, de quelques millions, de centaines de millions d'euros. Est-ce que là, on fait une grosse erreur par rapport aux enjeux de demain ?
Ça ne touchera pas l'apprentissage.
Parce que je suis d'accord, ça avait décollé avant en termes d'apprentissage. Les régions avaient été partie prenante.
Regardez les chiffres.
On va pas polémiquer.
C'est plutôt un succès, donc reconnaissons-le.
Hier, juste une précision. Certains autour de cette table disaient qu'il faut regarder aussi les aides publiques qui sont données éventuellement en contrepartie. Est-ce que tout ça est bien bordé de ces entreprises qui viennent s'installer, donc à vérifier derrière.
Dans les subventions, c'est bordé quand même. Enfin, moi, j'ai bien vu dans les entreprises, il y a quand même des contreparties, il y a des engagements, c'est pas si simple que ça. Non, ce qu'on peut, là où il faut peut-être tirer une sonnette d'alarme et faire attention, on veut faire venir des entreprises en France, mais avec le ZAN qui a été voté, avec le zéro artificialisation, en 2050, vous n'aurez quasiment plus de territoire pour accueillir des entreprises. C'est bien de vouloir accueillir des entreprises.
Après, il y a des friches industrielles à réutiliser.
Oui, enfin, ça suffira pas. Nous, on voit en Normandie, ça suffit pas. Vous pouvez effectivement, c'est d'abord le travail qu'il faut faire, hein, de reprendre ces friches. Mais pour qu'une entreprise s'installe, il lui faut du foncier et il lui faut des compétences. Si vous manquez de compétences, parce qu'effectivement la formation est un peu en panne, et si vous n'avez pas de foncier pour accueillir une entreprise, vous pourrez faire tous les Versailles que vous voulez, ça suffira pas.
Voilà. Donc, quand vous interrogez cette...
Quand vous interrogez les chefs d'entreprise
qui ont participé à ce salon, qui participent encore à ce salon, c'est très intéressant de voir pourquoi ils viennent. Ils viennent pour les compétences, alors même s'il en manque. Hein, ils viennent pour le réseau de transport, qu'on critique beaucoup, mais en comparaison avec les autres, il est plutôt encore efficace. Ils viennent pour un savoir-vivre français, mais ils doivent absolument passer au-dessus de nos gros handicaps qui restent les charges. La fiscalité. Ils le disent tous, hein, quand on vient en France, on fait un effort. On le fait parce qu'on considère qu'il y a des contreparties qui sont très importantes. Mais le droit social et l'affaire des charges sociales, l'imposition sur les entreprises, restent des freins majeurs. Même s'il y a eu des évolutions, ça reste des freins majeurs. On est à 150 milliards de plus que l'Allemagne en imposition sur les entreprises. 150 milliards, c'est pas rien.
Brice, on va passer là.
Un petit dernier sujet, parce que ce matin, je lisais que le président n'était pas contre la vente de Société Générale. Je dirais que d'un côté, effectivement, il y a le Choose France avec les 15 milliards, etc. Et de l'autre côté, un fleuron bancaire, on est disposé à le vendre. Donc il y a quand même un petit hiatus, il faut faire attention. Et j'insiste sur le fait qu'on doit garder la souveraineté.
Il y a d'autres industries stratégiques.
Mais à un moment donné, il faut dire stop.
La liste est longue.
La liste est longue. Bah, Brice, vous aviez la parole, je vous la laisse. Avec un coup de griffe, un coup de gueule.
Alors, mon coup de gueule, en fait, il porte sur des parents d'élèves, notamment des mamans, qui ont carrément été embarqués au commissariat après avoir occupé pacifiquement les directions d'école élémentaire à Gennevilliers. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis des mois, et depuis la rentrée, et même l'année dernière, énormément de profs absents, et donc des mobilisations qui n'ont cessé d'avoir lieu. Et qu'au final, en fait, la revendication principale, c'est que ces écoles qui méritent d'être en réseau d'éducation prioritaire, comme d'autres écoles de la ville, ne le sont pas parce qu'il y a un réseau donc rattaché au collège qui, lui, ne l'est pas. Donc des écoles qui sont fortement en difficulté élémentaire ont été décrochées du réseau d'éducation prioritaire. Et vous savez, c'est le problème quand on raisonne à enveloppe constante par rapport au réseau d'éducation prioritaire. En fait, on déshabille Paul pour habiller Jacques, mais Paul, en fait, a toujours les mêmes difficultés. Et réseau d'éducation prioritaire, c'est un point qui est très important parce qu'il y a des professeurs qui sont mieux payés, payés, il y a des moyens qui sont alloués, il y a une limitation du nombre d'élèves par classe, donc on a un vrai sujet. Donc je trouve qu'embarquer des parents d'élèves qui luttent et qui militent pour la bonne cause, c'est vraiment exagéré. Donc le coup de gueule, il est à la fois sur le fait qu'il ne faut pas réagir comme ça, et également pour soutenir la revendication de passer en réseau d'éducation prioritaire.
Et c'est une demande à peu près légitime, ouais. Quand on connaît effectivement les difficultés. Il y a certains parents, on l'avait traité dans l'actualité, qui se retournent contre l'État pour perte de chance pour leurs enfants, quand il n'y a pas des remplacements ou quand il y a effectivement des difficultés comme ça. Ouais. Du côté du ministère, pas de réaction de ce côté-là, du côté de...
Alors, Madame Belloubet, elle a été interpellée, il n'y a pas eu de réponse à ma connaissance aujourd'hui, mais les mobilisations ne vont pas s'arrêter.
Allez, ce que je vous propose, c'est que comme on va arriver à la pause publicitaire, enfin faire une petite pause et on va vous entendre, Jérôme, sur votre coup de gueule. On va foncer sur la croisette justement avec vous dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça.
Sud Radio Foix.
103.7.
Sud Radio.
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichón. Tu sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu tienes el poder de escoger tu destino, el poder de escribir tu destino. Será tu imagen más suave que el algodón, más poderoso que el león. Sea sabio y obediente, como a menudo te piden. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
En compagnie d'Arnaud Benedetti, Jérôme Dubu, Cédric Nouvello et Brice Nkonda. Alors on finissait notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule avec vous, Jérôme.
Oui.
Alors, croisette oblige.
C'est un coup de gueule contre Alain Sard. Alors, je vais peut-être...
Cannes, Alain Sard, voilà. Producteur,
Alain
grand
Sard, c'est
producteur
le plus grand producteur français, puisqu'il a fait plus de 200 films. Il a produit tous les grands metteurs en scène, Tavernier... Godard, tous les grands metteurs en scène français, même David Lynch, donc des metteurs en scène étrangers aussi. Il était le patron du cinéma français quasiment hein, pendant des années, puisqu'il a commencé dans les années 70 jusqu'à maintenant. Bon. Il se trouve que, alors je vais peut-être m'attirer beaucoup de remarques négatives ici sur ce plateau et peut-être de la part des auditeurs, mais je trouve que ce qui a été publié dans Elle hier avec l'interview donc de 9, alors des jeunes filles à l'époque, aujourd'hui elles sont moins jeunes évidemment puisque ça date des années 90, qui accusent de violence, de viol, d'agression sexuelle Alain Sardes. Bon. C'est pas la première fois que ça se produit dans le cinéma français. Hein. On a eu l'affaire de Pardieu, on a eu l'affaire Judith Godrèche, à contrario. Et puis là, on a cette affaire qui explose depuis hier. Bon. Alors, Alain Sardes, il a d'abord été accusé dans les années 90. Il a eu un non-lieu, faute de preuves. Bon. Mais on sait très bien dans le milieu que tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que 9 témoignages, c'est quand même beaucoup. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le féminisme exacerbé, dans la défense de MeToo mordicus, etc. Mais je trouve que ce personnage, qui a régné sur le cinéma français pendant des années, il y a un moment où il va falloir qu'il s'explique et qu'il soit... alors, évidemment, il y a prescription de tous ces actes, vraisemblablement, puisque ça date des années 90. Ben, précisément, il y a une tribune qui est parue dans Le Monde, hein, hier soir ou ce matin, avec une centaine d'actrices, quelques acteurs, qui ont signé, qui demandent une loi contre les violences sexuelles. Bon. Et il y a un point qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent, ou ce qu'elles appellent, dans cette tribune, la prescription glissante. C'est-à-dire qu'au fond, des faits d'une gravité extrême, parce qu'il y avait des mineurs, hein, il y a des jeunes filles de 15 ans qui témoignent dans Elle.
D'accord.
Bon, à l'époque, 15 ans, hein, donc des mineurs qui ont été agressés sexuellement par, visiblement, qui auraient été, je mets tout ça au conditionnel parce que la présomption d'innocence est là, qui auraient été agressés par Alain Sardes pour des recrutements, hein, qui n'étaient pas des recrutements en fait. Hein. Il suffit de lire les témoignages, c'est épouvantable et abominable. Bon, si c'est vrai. Et moi, je n'ai pas de raison de croire que ce n'est pas vrai. 9 témoignages, ça fait quand même beaucoup. Et donc, la présomption glissante, ça permettrait de ne plus avoir de présomption sur des faits
oui,
aussi
mais
graves.
Mais comment pour les preuves ?
Mais ça veut dire que ça devient imprescriptible.
Et comment vous faites pour les preuves ? Comment vous constituez un dossier ?
Oh ben ça, écoutez, les témoignages
oui, mais ça serait...
qui sont dans le journal Elle hier sont épouvantables. Voilà, donc ça, c'est des preuves, à mon avis, irréfragables, je pense. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, moi, je suis assez partagé là-dessus. Je ne veux pas non plus crier au loup en disant tous les hommes du cinéma sont épouvantables, tous les producteurs, tous les metteurs en scène sont épouvantables, ils ont essayé de violer toutes leurs actrices, etc. Non. Mais là, si vous voulez, il y a un moment où il faut que ce personnage et ces personnages rendent des comptes. Et avec la prescription, on n'y arrive pas. Hein, vous avez vu l'affaire PPDA, l'affaire de Pardieu, je ne sais pas ce qu'il en est, il a été mis en garde à vue, etc. Il est mis en examen. Bon, est-ce qu'il y a prescription aussi ? Mais si vous voulez, il y a un moment où il faut rendre des comptes à la société. Voilà.
Qui veut réagir sur...
L'avantage de l'imprescriptibilité, ça éviterait que le débat se passe exclusivement sur la place publique comme il se passe aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de s'expliquer que de s'expliquer médiatiquement. Là, en rendant
Arnaud,
finalement ce type de...
Est-ce que c'est aux médias de faire le procès de quelque chose ?
De toute façon, ça se fait. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Monsieur Sardes. Je veux dire clairement que les médias réagissent, que les personnages publics réagissent, et que finalement, le procès se fait médiatiquement parce qu'il ne peut pas se faire manifestement sur le plan judiciaire. Au moins, je veux dire, l'imprescriptibilité permettrait que tous ces débats se fassent, j'allais dire, avec une procédure judiciaire et dans le cabinet d'un juge d'instruction, voire ensuite dans un prétoire. Donc ça serait beaucoup plus sain, en l'occurrence. Là, le fait que ces délits soient prescrits, parce qu'ils se sont passés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça réapparaît médiatiquement et que les victimes potentielles ou présumées de M. Sardes, si tant est que ça soit prouvé, là encore, il faut être extrêmement prudent. n'ont d'autre, j'allais dire, choix que finalement d'avoir recours à une expression médiatique, ce qui quand même pose problème, en effet.
En tous les cas, il y avait cette fameuse rumeur d'un espèce de révélation de oui, je ne sais combien. Démenti, non, tout ça n'existe pas. C'est effectivement. Enfin,
quand vous additionnez le nombre de personnages qui sont mis en cause dans l'audiovisuel, dans la publicité. Dans le cinéma.
Dans tous les domaines d'ailleurs.
Dans tous les
c'est
domaines.
Absolument hallucinant. La politique, hein. C'est absolument hallucinant.
Oui, je pense qu'il n'y a pas un domaine qui échappe. Hein. Enfin, c'est plus une évolution souhaitable de la société. Enfin, des prises de conscience qui ont peut-être tardé, mais qui maintenant arrivent. Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux que la justice puisse s'en occuper avec une évolution, parce que ça apaiserait au moins la société. Parce que sinon, on est sans le débat, mais sans réponse, sans conclusion, sans décision. Chacun se fait son opinion, mais il n'y a pas de décision de justice.
C'est très
qui
malsain.
Passe. Donc c'est malsain. Moi, je pense que la société, c'est pas bon. Effectivement, et la prescription, c'est une vraie question, tu as raison.
En tous les cas, ça sera un Cannes très observé, un festival très féminin aussi, hein, c'est quand même rare, mais je crois que c'est la 11e présidente du jury seulement hein, qui va avec les autres membres du jury décerner la Palme d'Or. Donc on voit effectivement qu'il y a aussi de ce côté-là une prise en compte et on espère quand même du beau cinéma et des beaux films. Apparemment, le film d'ouverture aussi a quelque chose d'impressionnant. Allez, on va passer à nos sujets parce que l'heure, ça défile. Je voulais votre regard à tous les quatre. Ça va faire 4 mois, quasiment jour pour jour, que Gabriel Attal donc, est arrivé à Matignon, nommé dans la foulée donc, du départ d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron, le plus jeune Premier ministre de la 5e République. On a vu effectivement tout de suite une espèce d'emballement médiatique pour la nouveauté, la jeunesse, son style. 4 mois plus tard, quel est votre regard? Certains disent le style Attal n'est pas là, il n'imprime pas. Alors, mon regard se tourne vers vous, Arnaud, et je tourne la parole.
Non, mais parce que moi, j'ai toujours été surpris, non pas de la nomination de M. Attal, mais du timing de cette nomination. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le président de la République avait nommé en janvier, à 6 mois d'une élection, qui est l'élection européenne, un nouveau Premier ministre, alors qu'il aurait pu très bien faire ce qu'ont fait nombre de ses prédécesseurs, user jusqu'à l'accord de Mme Borne, c'est-à-dire attendre le résultat des élections européennes, et ensuite, en effet, changer de Premier ministre. Je trouve que l'agenda eût été plus pertinent, en l'occurrence, tandis que là, en effet...
Plus classique.
Plus classique, plus pertinent. Alors on voit bien ce qu'il y avait derrière l'intention quand même d'Emmanuel Macron, c'était de nommer un jeune Premier ministre pour aussi faire pièce à Jordan Bardella. Manifestement, en tout cas, au regard des intentions de vote, ça ne marche pas. Ensuite, moi, écoutez, on dit qu'il n'imprime pas. Très franchement, je trouve qu'aujourd'hui, Attal fait ce qu'il peut dans le système de contraintes qui est le sien. C'est-à-dire un système avec une opinion publique qui est quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, en défiance, avec l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, parce que ça, je pense que c'est un problème structurel, que l'on va pas purger comme ça. Je me demande comment on va pouvoir rester 3 ans comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile. Il est en effet, j'allais dire... plus prisonnier, j'allais dire, du président de la République, d'une certaine manière, des choix du président de la République. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il fait le job.
Il se démultiplie quand même beaucoup.
Il se démultiplie beaucoup, mais avec, encore une fois, le système de contraintes qui est le sien. Alors après, est-ce qu'il imprime ou il n'imprime pas c'est très difficile de le dire. Bon, il y a quand même un style Attal, malgré tout, par rapport à Emmanuel Macron.
Bah, non, mais ça, enfin,
il est plus, il me semble être plus dans la proximité.
Cédric, et après vous, Brice.
Il faut lui reconnaître, hein, c'est un excellent communicant. Enfin, il est dans les médias, il est très bon, il sait faire là-dessus. Après, il faut regarder effectivement le boulot qui est fait derrière. Moi, quand il avait été nommé, on m'avait interrogé sur effectivement ce que j'en pensais. Je lui ai dit, il faut laisser le crédit, il faut lui laisser le crédit de voir ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre, comment il va pouvoir agir. Bon. Moi, j'avais quand même été fortement déçu à l'Éducation nationale parce que, objectivement, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui ont été quand même très peu suivis des faits. Quand on regarde la situation de l'école actuellement, on peut pas dire quand même qu'il y a eu une impulsion. Alors, il est resté très peu de mois, mais encore une fois, c'était le choix du président de la République de ne pas le laisser plus. Si c'était un excellent ministre de l'Éducation nationale, il aurait peut-être fallu le laisser à sa place pour qu'il puisse vraiment travailler sur ce domaine-là. Dans le domaine, moi, je suis en charge de l'autonomie, tout ce qui est personnes âgées, handicap, on est dans une situation ce qui est désastreuse en France. On peut pas dire que la loi bien vieillir, par exemple, va répondre à la vraie problématique du vieillissement de la population et de cette prise en compte des personnes en perte d'autonomie. Là, il est aux manettes, là, il est aux enjeux. Il aurait pu tout à fait, effectivement, prendre en compte et dire, je vais mettre une loi grand âge qui impulse et qui donne vraiment de l'avenir à ces populations qui sont vraiment les plus démunies. On n'a pas vu ça. Il est quand même passé, on l'a oublié, mais il est passé au compte public quand même. Hein. Il était ministre délégué au compte public. Bon, quand on connaît la situation des comptes publics françaises, on ne peut pas non plus expliquer qu'il y a eu une impulsion phénoménale. Alors, bien sûr, il y a Bruno Le Maire, il n'était pas libre d'agir, etc. Mais moi, je ne trouve pas, pour l'instant, qu'à part les effets d'annonce, qu'il y ait forcément des choses politiques très fortes. On va voir ce qui va se passer au niveau des agriculteurs. C'est débattu aujourd'hui, avec la loi sur la souveraineté agricole. Il a fait beaucoup de promesses. Ça peut être une façon de montrer qu'il peut agir et qu'il peut effectivement impulser quelque chose. De concret. Quoi.
Allez, on va vous entendre encore. On n'a pas entendu ni Jérôme ni Cédric sur ce sujet-là. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Sud Radio Agen.
102.3.
Sud Radio.
This ain't Texas. Alexis, and throw your keys up. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, spurs, boots. To the floor now, ooh.
Shoot.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Allez, on continue de débattre autour de ces 4 mois de Gabriel Attal à Matignon. Le style Gabriel Attal, est-ce que vous trouvez qu'il imprime? Alors on voit effectivement les difficultés, on ne vous a pas entendu, c'est, ouais. Ouais, Brice, le style Attal, alors certains disent oui, non, on imprime, ça imprime pas.
Le style Attal, c'est un peu le style Macron, et je pense qu'il a beau être aussi bon communicant qu'il veut, et ça, c'est un fait avéré. On a vu qu'il savait très bien communiquer, notamment lors de son discours de politique générale. Mais il est prisonnier de la courbe déclinante d'Emmanuel Macron. Et en fait, sa seule solution pour exister en tant que Gabriel Attal, ça va être de trahir son patron. Parce qu'autrement, il va être prisonnier de cette dynamique. Ah. À mon avis, ça va... Moi, en fait...
Macron bis.
Non, mais je ne vois pas comment...
Sarkozy-Chirac bis.
Je ne vois pas comment il peut...
Ou Chirac-Giscard.
Alors du Chirac-Giscard. Coup, on parlait d'un système de contraintes.
Plus loin.
Arnaud parlait d'un système de contraintes et je ne vois pas comment il peut s'en émanciper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un ministre jeune qui, mine de rien, manque d'expérience. Il est très bon en communication, donc il suscite beaucoup d'attentes. Mais quand on parle de désmicardiser la France, des gros sujets comme ça, qui entraînent tout un tas de problématiques comme le logement, comme l'école, etc., c'est pas quelque chose qu'on transforme en un claquement de doigts. Donc en fait, il y a quand même un décalage entre le temps court de la communication et le temps moyennement long, voire long, de la politique. Donc là, on est sur des agendas qui fait que finalement, il y a beaucoup d'annonces, ça gigote beaucoup. Ça fait beaucoup d'expérimentations, effectivement. Ah ouais. Mais en réalité, on ne les voit pas aboutir. Et de toute manière, ils n'ont plus vraiment le crédit politique pour le faire. Parce que quand on a un discours aussi fort que Gabriel Attal au mois de janvier et qu'on veut vraiment aboutir, eh ben on y va au 49-3 et on fait des choses très, très rapidement. Sauf que même le 49-3, ils l'ont surutilisé, cet outil. Donc en fait, ils sont quelque part...
Ils n'avaient pas le choix.
Déjà, ils n'ont pas le choix.
Il y a un sujet qui arrive sur la table, c'est l'assurance chômage qui va arriver très vite. Je crois que c'est vendredi. Choses vont s'accélérer avec une mise en application au 1er juillet. Ouais. Donc, Jérôme.
Sur le positionnement de Gabriel Attal, moi, je considère que lorsque vous changez de Premier ministre, c'est pour changer d'objectif, ce qui n'a pas été le cas, puisque c'est toujours la même politique qui est menée. C'est Macron.
La feuille de route.
C'est la feuille de route présidentielle qui a été acceptée par les Français. En 2022, ou alors vous changez la composition de la majorité quand vous changez de Premier ministre.
Ah oui.
Bon, là, il ne s'est rien passé. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait eu un intérêt de changer de Premier ministre si on avait eu une association, ce que je réclame moi depuis 2022 avec LR. Alors, un contrat de gouvernement avec LR en bonne et due forme, négocié, etc. Alors, on me dit LR n'en veut pas. Les apparatchiks de LR sont recroquevillés sur
leur
petit magot de voix, ils ne veulent pas en bouger. Et puis, de l'autre côté, Macron n'en veut pas non plus. Peut-être, il préfère les débauchages individuels. Mais en tout cas, si on n'arrive pas, dans les 3 ans qui viennent, à avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale, et la majorité stable, elle passe par un contrat de gouvernance avec les députés LR, c'est assez clair. Eh bien, écoutez, il ne se passera pas grand-chose.
Mais quel est l'intérêt pour LR de faire ça ?
Il ne se passera pas grand-chose.
Je suis d'accord avec l'impossibilité aujourd'hui d'avancer pour Emmanuel Macron s'il n'arrive pas à élargir sa majorité, compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi, je pense qu'une motion de censure va finir par être adoptée, notamment sur la loi de finances, en principe à l'automne. De toute façon, les LR sont prêts, manifestement, pour un certain nombre d'entre eux, à la voter. Et même le président du Sénat, Larcher, y est plutôt favorable. Mais enfin, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, une recomposition n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. En l'occurrence, du côté du Sénat, on laisse entendre mezzo voce que, je veux dire, on a des discussions avec la majorité. Mais je ne suis pas sûr que ça soit gagnant à terme, à la fois pour la majorité et pour les LR. Parce que quand même, il faut rappeler que les députés LR, ils n'ont pas été élus par des électeurs qui souhaitaient une alliance avec Emmanuel Macron. C'est vraiment le noyau dur des LR qui sont véritablement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Alors qu'il y a un certain nombre de parlementaires LR qui aient cette tentation, c'est possible. Mais je pense qu'ils risquent de le payer cash lors des prochaines élections législatives.
Moi, je suis secrétaire départemental des LR dans le Calvados. Les militants ne souhaitent pas d'alliance avec Macron.
Les électeurs LR ne veulent pas d'alliance. C'est ça.
Nice.
Enfin, attendez, il y a combien de militants?
Non, Jérôme, il y en a.
Enfin, les électeurs.
Jérôme. Soyons sérieux, c'est pas les militants qui vont décider quand même. Moi, je suis militant.
Non, mais les électeurs.
Il y a toujours une petite minorité qui effectivement.
Non, mais
ah oui, mais les électeurs, c'est autre chose.
Juste pour compléter, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que Jérôme vous proposait cette idée d'un vrai contrat de gouvernance entre LR et la majorité. Mais quel est l'intérêt pour LR, en fin de mandat, alors que tout décline, de faire un contrat de majorité?
Non, mais si vous voulez, il y a des intérêts boutiquiers, ce que j'appelle des intérêts boutiquiers, qui consistent à maintenir une formation politique.
Il y a du fond aussi.
Mais il y a aussi des intérêts, l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est d'avoir un gouvernement stable qui avance. Regardez la palinodie de l'affaire de la loi sur l'immigration.
Oui, mais Jérôme,
enfin, c'est hallucinant.
On parle de tout ça, mais le 9 juin, il y aura un résultat qui sera forcément décortiqué. Même si ça a les champs européens.
Avec 50% de participation au
mieux. Oui, mais il sera le résultat forcément décortiqué.
Ça ne va pas révolutionner la vie politique française.
Mais il y aura forcément des conséquences. Ça voudra
dire quelque chose quand même. Enfin, si, ça voudra dire quelque chose.
Sur 50% du corps électoral, oui.
D'accord,
Ça avait eu un impact les élections législatives.
Bien sûr, les députés ont été élus en 2017, il faut le rappeler, avec la plus faible participation. Ça
ne pose
pas un problème de légitimité.
Le lendemain du 9, c'est-à-dire le 10 juin, tout le monde aura oublié qui a été élu.
Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que c'est des élections européennes plus importantes que les élections européennes qu'on a
connues jusqu'à maintenant. Parce qu'on veut leur donner beaucoup d'importance.
Non, parce qu'il y a une réalité, encore une fois, c'est qu'on a un gouvernement qui est empêché à l'Assemblée nationale et qui n'a pas de majorité, et que ce sera un impact sur le comportement des groupes politiques. Donc c'est ça qui va rendre difficile l'action du gouvernement et l'action d'Emmanuel Macron. Il lui reste 3 ans, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié du mandat du quinquennat.
Très franchement, comment il fait?
Non, mais les électeurs vont se repositionner sur l'Europe.
Dans le 17e arrondissement ou dans tout l'Ouest parisien, que je connais un peu mieux que l'Est. Bon, l'Ouest parisien a toujours été plutôt LR, UMP, UDF, etc. Bon, plutôt à droite. Bon, ils ont voté massivement aux dernières élections présidentielles et aux dernières législatives, pour Emmanuel Macron et pour les candidats.
Mais
ce qu'on a fait. Il y a combien de députés LR à Paris?
Il y a 2.
0.
Oui, mais c'est ce que je te dis. Ils sont tous passés chez Macron.
Mais la plupart des députés...
Bon, alors, les électeurs, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on avance.
Ah non, mais les députés LR qui sont...
Jérôme, c'est peut-être un choix par défaut.
Attendez, on n'est pas tous en même temps.
Ben non, mais les députés LR qui ont été élus, je pense, dans un certain nombre de zones, notamment de zones périphériques, je peux te dire que ceux-là, leur électorat, ils ne souhaitent pas une alliance avec Emmanuel Macron. Va dans les Ardennes, va dans le sud-ouest, va dans le Lot, va demander aux électeurs s'ils souhaitent une alliance avec Emmanuel Macron. Ça, je le comprends pas du
tout. Moi, je pense que même
c'est un contrat de gouvernement.
Un contrat de gouvernement, ne jouons pas sur les mots, c'est une alliance. Une alliance de gouvernement.
J'irais même plus loin, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs LR qui penchent plutôt côté RN, enfin qui sont plutôt, qui vont à l'inverse d'Emmanuel Macron.
Ils sont...
Et j'ajoute que les élections européennes qui viennent, je suis plutôt d'accord, sont d'une nature un peu différente. Ouais. L'importance est vraiment présente. Et qu'il faudra surveiller le résultat de Raphaël Glucksmann, qui peut aussi symboliser la reconstitution du paysage politique qu'on avait avant.
Peut-être, Jérôme, c'est possible. N'oubliez pas que les électeurs, la réforme des retraites votée par le 49-3, il y en a beaucoup, beaucoup qui attendent de pouvoir exprimer quelque chose contre ça. Enfin, ça a été très mal vécu. Ouais. C'est les sondages qui le disent.
Ceux qui sont dans l'opposition,
je pense qu'il y a un vrai phénomène.
Ceux qui sont dans l'opposition de gauche ou dans l'opposition de droite, ceux qui sont dans l'opposition de droite, ils vont voter massivement pour le RN. Regardez les résultats, 32%.
Donc,
30,
ça veut dire que ces résultats du 9 juin auront une incidence sur le...
Mais aucune liste aux européennes n'a dépassé 30% depuis la liste de Simone Veil.
Depuis 79.
Voilà.
Donc, non, mais la lecture qu'on va faire de ces résultats...
Non, mais
aura...
je veux dire que l'opposition, elle n'est pas chez LR.
Mais tu vois que l'interprétation que tu en fais est une interprétation qui montre que cette élection a quelque chose de tout à fait, je veux dire, unique par rapport aux autres élections.
Oui, mais ça ne va pas bouger la vie politique française.
On ne vous a pas entendu, Cédric.
Oui, non, mais Jérôme disait tout à l'heure, bon, de toute façon, il ne faut pas y mettre plus d'importance. On est quand même sur une élection éminemment importante qu'est l'élection européenne. C'est une élection sur laquelle, en plus, Emmanuel Macron avait mis un marqueur fort, puisqu'il fait de l'Europe un enjeu, il a toujours défendu. Donc c'est vrai qu'avoir un vote contre lui sur un sujet qu'il porte et qu'il veut incarner depuis le début, c'est quand même un marqueur assez fort, moi je pense, du manque de confiance ou au moins de la rupture avec les électeurs français, en tout cas concernant Emmanuel Macron. Ensuite, concernant les LR, moi je trouve quand même qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron n'a pas spécialement tendu la main aux LR. Il avait une majorité écrasante, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il a plutôt essayé, entre guillemets, de tuer le parti LR que de leur proposer un contrat. Donc venir en fin de mandat, quand on a un désaveu de la population, quand on voit qu'il y a une rupture avec ses électeurs, dire maintenant ce serait peut-être bien, au nom de la France, qu'on fasse un contrat, je trouve que c'est du cynisme profond quand même. Enfin, on est,
ah non,
on est
mais
quand
c'est même... ce que je te dis. Bon, il aurait voilà, dû le faire voilà. en 2022.
Ah bah bien sûr, bah c'est voilà. trop ça.
Oui. Et il n'y avait pas de volonté ni d'une.
Et puis il y a quand même un moment.
D'un côté ni de l'autre.
Il faut quand même se dire que ça fait 7 ans qu'il est aux manettes. 7 ans au pouvoir, on ne peut pas systématiquement dire je vais révolutionner le pays, vous allez voir, je vais transformer le pays, etc. Quand ça fait 7 ans qu'on a les manettes et qu'on est au pouvoir. Quand on est dans une mairie, quand on est dans un département, je vous assure que l'électeur, quand vous lui avez promis, quand vous êtes engagé sur un changement, il vous attend. Il vous attend au virage, mais pas 7 ans après. Il vous attend dans les 2-3 années qui suivent.
Et encore.
Donc, et encore. Pense que là, maintenant, enfin, moi, on revient un petit peu sur le débat sur Attal. Quand effectivement, il a promis de tout révolutionner au mois de janvier, etc., je suis désolé, ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes maintenant.
Oui, mais
7
mais
ans qu'ils ont montré ce qu'ils savaient faire ou ce qu'ils ne savaient pas faire.
Le malheur, c'est que pendant 7 ans.
Et la montée du RN est quand même profondément liée aussi à la non-efficacité. L'efficacité de la politique d'Emmanuel Macron.
Le malheur, c'est que pendant 7 ans, puisque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a été réélu en 2022, pendant 7 ans, les deux forces principales de gouvernement de la Ve République qui ont été laminées en 2017 et relaminées en 2022 n'ont strictement rien fait. Je parle de LR et du Parti Socialiste qui étaient...
Mais ça, les électeurs ont la mémoire courte, vous le savez très bien.
D'accord, sauf que...
Jérôme.
Alors là, on dit la social-démocratie va renaître, etc., avec 12-13% de Glucksmann, ok, moi je veux bien, mais enfin, on verra le lendemain.
Non, c'est pas sûr, mais
ça changera strictement rien pour
devant,
moi.
S'ils sont devant la liste d'Emmanuel Macron...
Mais
oui,
de Valérie Ayer.
Je ne l'ai pas encore, attendez. On est loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je veux bien assumer toutes les responsabilités sur la montée du RN de la part de la majorité présidentielle. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'alternative aujourd'hui à la majorité présidentielle autre que l'extrême-gauche ou alors le RN et Marine Le Pen, je suis désolé. Tous les partis de gouvernement ont une responsabilité, y compris LR et y compris le Parti Socialiste.
C'est une responsabilité qui a 40 ans d'histoire. Hein.
Oui.
Qui a 4 décennies.
Et c'est ce que je te dis.
Bien sûr, je suis d'accord. Ouais.
Allez, ce que je vous propose, messieurs, Arnaud Benedetti, Jérôme Dubus, Cédric Nouvello et Brice Nkanda, on s'arrête un court instant et puis on ouvre l'un des sujets qui fait l'actualité aujourd'hui. On dira peut-être un mot de la Nouvelle-Calédonie rapidement, de ce qui est en train de se passer. Et puis on regardera si il faut généraliser les amendes pour port d'armes blanches, comme ça a été expérimenté, comme d'autres villes, du côté de Nice. À tout de suite.
Sud Radio Saint-Laurent-du-Var.
97.9.
Sud Radio.
Sleep.
midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Allez, c'est la dernière ligne droite avec vous quatre, Arnaud Benedetti, Jérôme Dubus, Cédric Nouvello et Brice Nkonda. Alors, on va dire un mot rapidement de cette décision de la ville de Nice de rejoindre les communes, les grandes villes, hein, après Montpellier, Marseille, Paris et Lyon, donc décide de mettre une amende de 500 euros pour le port d'armes de catégorie D. Ça comprend évidemment les couteaux, les matraques, les poings américains et les bombes lacrymogènes. Une amende supplémentaire, l'arme sera détruite et la personne se verra interdit de fréquenter pendant 6 mois le secteur où il aura été appréhendé avec l'arme blanche. Alors ça, j'attends de voir comment ça va se produire, mais voilà, il faut l'expérimenter rapidement parce qu'on a d'autres sujets à traiter.
Il faut expérimenter et puis il faut surtout appliquer les peines, c'est toujours le même sujet, quoi. Je veux dire, le papier fuse pas l'encre,
mais 500 euros, c'est
voilà,
pas
mais
mal.
Après, il faut effectivement l'appliquer. Après, moi, ça me choque pas qu'on verbalise quelqu'un qui se balade avec un poing américain, un couteau, une matraque dans sa poche. Bon, on se demande bien au quotidien à quoi ça sert. Vous voyez, donc je pense que oui, c'est bien de pouvoir verbaliser quand c'est comme ça, mais encore une fois, il faut que ça soit appliqué. C'est bien le sujet qu'on a actuellement avec notre justice, c'est l'application des peines, et c'est effectivement être sûr que les gens qui sont récupérés puissent être effectivement condamnés, quoi. C'est le problème.
Écoutez, Jérôme. Moi, je trouve ça. J'ai l'impression que c'est pas appliqué. Vous dites que c'est appliqué à Paris ?
Non, c'est une expérimentation avec les villes.
Et Paris en fait partie.
Et Paris en fait partie. Cette nouvelle norme mise en place par le parquet de Nice a déjà été lancée dans 12 autres communes.
Et de l'extrême droite défiler
avec des matraques.
Défiler vraisemblablement avec des matraques parce que c'était un peu la tradition de cette partie de l'échiquier politique d'avoir des matraques ou des poings américains dans les poches. Je n'ai vu aucune interpellation.
Il faut des policiers municipaux pour ça.
C'était il y a 10 jours.
Ils sont là pour mettre des
dans Paris, en plein Paris, dans le 5e arrondissement.
Il y a une semaine.
Donc excusez-moi, je suis samedi. Un petit peu sceptique sur ce sujet.
Sur déjà la mise en application de tout ça. Autre sujet également qui rejoint la question de la sécurité. Alors ce rapport sénatorial qui a été publié sur la question du narcotrafic en France, qui dit que la France est submergée par le narcotrafic avec 6 mois d'investigation, plus de 158 auditions, alors ça va d'avocats à journalistes, bailleurs sociaux, des villes passées au crible. En fait, c'est un constat alarmant et notamment on découvre aussi dans ce rapport sénatorial qu'il y a une forme, Brice, vous l'avez regardé, une forme de on va dire de à l'italienne quelque part. Il y a des élus qui sont aujourd'hui corrompus, des policiers, une espèce d'emprise mafieuse.
En fait, on peut
parler effectivement de narcotrafic.
Alors le rapport il est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas lu dans le détail, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas pris encore la mesure des émeutes de juin-juillet 2023. Les mesures qui en sont ressorties, Force d'Action Républicaine en expérimentation, les DALO qui sont supprimés dans certains quartiers, etc. Donc en fait, on a fait quelques mesures qui sont plutôt des mesurettes, des expérimentations, mais on n'a pas encore pris l'ampleur de la situation dans nos quartiers. Je me souviens, en 2005, avec Ziad Ebouna, il y avait eu des émeutes dans les quartiers, mais c'était les quartiers des grandes villes. On a vu en 2023 qu'on est aussi sur les quartiers des villes moyennes. Mmh. On est également dans des villages, donc il y a une expansion de la zone de trafic. Et en fait, on a besoin de se doter d'outils beaucoup plus importants pour réinsérer les gens. Et donc, le problème est devenu très, très complexe. Et je ne pense même pas que les mesures qui sont préconisées dans le rapport sénatorial vont suffire, parce qu'il faut vraiment faire des choses assez structurantes dans tous les domaines.
Voilà, ce que disent exactement les rapporteurs de ce rapport, enfin, en tous les cas, la Constitution, aujourd'hui, on assiste, nous, la France, à la constitution d'un modèle social parallèle avec ses hiérarchies propres, sa police chargée d'assurer la sécurité des réseaux. Bref, c'est un monde parallèle qui s'est mis en place.
Il faut d'abord, je crois qu'il faut saluer quand même le travail que fait le Sénat, en l'occurrence, parce que c'est vrai que les rapports sénatoriaux sont de très grande qualité. Très pointu, c'est des enquêtes qui sont menées, je veux dire, sur plusieurs mois et qui, en général, apportent un état des lieux qui est toujours très sérieux et implacable. Ça, c'est une chose.
C'est transpartisan.
Ouais, c'est transpartisan. En plus, ça se fait dans un travail de convergence, au moins, de tous les sénateurs, quelle que soit leur appartenance parlementaire et partisane. Non, c'est clair, on a une contre-société qui se met en place dans un certain nombre de territoires. Hein. Clairement, on le voit. Ouais. Hein, qui assure sa propre sécurité, qui défie la sécurité. Il y a une économie parallèle, il y a une hiérarchie.
Il y a un marché de l'emploi.
Il y a une hiérarchie, c'est ça qui est très intéressant. Il y a une hiérarchie pyramidale. C'est typique des systèmes.
financière.
C'est typique des systèmes mafieux. Quand vous lisez des travaux qui ont été menés sur notamment la mafia, par exemple en Sicile ou dans le sud de l'Italie, vous voyez bien que c'est pyramidal. Et là aussi, c'est pyramidal parce que vous avez une organisation du travail, une division du travail qui est extrêmement, j'allais dire, poussée. En l'occurrence,
on parle de terrorisme.
Alors après, ce qui est plus inquiétant, tout est inquiétant.
C'est vrai.
Non, mais tout est inquiétant dans ce rapport. Ce qui est plus inquiétant, c'est en effet, ils semblent dire qu'ils ont des connexions dans un certain nombre de milieux, parfois judiciaires, voire politique, ça c'est en effet là aussi, j'allais dire, symptomatique de ce qu'est une emprise mafieuse telle qu'on a pu la connaître dans d'autres pays, notamment encore une fois dans le sud de l'Italie. Il faut être quand même très prudent aussi.
Il y a trois choses inquiétantes que signale le rapport, c'est effectivement la montée aussi de la puissance financière, c'est effectivement la ramification dans différents milieux, et le troisième facteur, c'est qu'on passe d'un problème qui était plutôt réservé aux grandes agglomérations, aux zones rurales. On va vers tout le pays, entre guillemets, quoi. Moi, je le vois sur les petites communes en Normandie, on a de plus en plus des gendarmes qui arrivent à arrêter toute une bande organisée, même dans des petites communes. Enfin, c'est surprenant, ce qu'on ne vivait pas avant. Donc, on voit bien que ce système, non seulement il se développe, mais en plus, il s'étend. Il s'étend sur nos zones rurales et notre petite commune. Avant, on disait que c'était un peu réservé au quartier, mais ça ne l'est plus, en fait. Ça n'est plus réservé aux grandes agglomérations.
Jérôme et Brice.
Non, moi, j'ai regardé effectivement les conclusions du rapport. Bon, le rapport est de très grande qualité. Arnaud a raison de le dire, mais si vous voulez, on a l'impression qu'on découvre un peu l'œuf de Christophe Colomb, mais ça fait des années qu'il y a ce choix qui a été organisé par les narcotrafiquants de faire de l'Europe une destination de la drogue majeure, avec des entrées qui sont très bien définies, et un produit aujourd'hui qui est la cocaïne, dont on a baissé le prix de manière volontaire pour le diffuser massivement. Bon, ça on le sait depuis une dizaine d'années. Et malheureusement, pour eux, malheureusement pour nous et heureusement pour eux, ça a l'air de fonctionner.
Ouais.
Car en fait, l'Europe est devenue, effectivement, via les Antilles pour nous, la France, parce que la plaque tournante, ce sont les Antilles, avec la Guadeloupe, la Martinique, un peu Saint-Domingue et Haïti, vraisemblablement. Bon. Et on pense qu'aujourd'hui, 90% de ce qui est envoyé à partir des zones de production passe. 90%. Ça veut dire qu'on en arrête 10%, vous vous rendez compte? Il n'y a quasiment rien. Bon. Et on sait qu'il y a un certain nombre de ports qui ont été ciblés par les narcotrafiquants, ports européens. Alors, Amsterdam, Anvers, l'influence des narcotrafiquants sur la vie politique de ces pays est en train de s'étendre. On n'a pas l'air de s'en préoccuper, mais c'est hallucinant. On tue des gens, on tue des hommes politiques, on les, effectivement, comme tu disais, on les soudoie. Voilà. Et nous, il y a deux ports qui sont ciblés, c'est Marseille. D'où les règlements de compte à répétition. C'est pas nouveau, mais Marseille. French Connection, à côté, c'était rien. Et Le Havre. Voilà. Ah. Donc, je ne sais pas si on va permettre de porter un peu plus de coups sur ces réseaux, mais c'est quand même hallucinant.
Si je peux me permettre, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'organisation logistique internationale qui progresse, on peut la décrire, vous l'avez décrite. Mais il y a aussi le fait qu'on a un terreau en France qui est prêt pour ça. Et en fait, on n'a pas suffisamment agi politiquement pour que le terreau n'aille pas dans cette direction. Et en fait, on a certains quartiers où les jeunes se font prendre trop tôt, ils ont commencé à prendre de l'argent beaucoup trop tôt. C'est difficile après de leur dire « fais des études, fais des efforts et trouve un travail ». Donc il faut être très très vigilant, nous aussi au niveau politique, pour essayer de démanteler point par point. Et à chaque fois qu'on a eu des alertes en France, on n'a jamais pris la mesure du problème. Et aujourd'hui, finalement, ce qui s'est passé dans les quartiers se diffuse dans toute la France. On pensait que ce qui avait lieu dans les quartiers, c'était la banlieue, c'était quelque chose qui était à côté, mais en fait, c'est en train d'immerger tout notre mode de fonctionnement général. Et là, on a un souci parce que politiquement, on n'a pas pris la mesure du problème.
Alors, il y a donc un constat d'échec cuisant de tout ce qu'on a pu mener depuis 40 ans. On parlait
même des politiques actuelles. Hein, le rapport signale sur les opérations PlaceNet, etc.
Ça ne marche pas.
Il dit que c'est décevant, que les bilans sont très mitigés. Donc, même les solutions les plus récentes ne produisent pas les effets attendus, en tout cas.
Mais ça veut dire qu'il y a aussi derrière ce marché, il y a des consommateurs, parce que s'il y a autant d'argent qui circule, c'est qu'il y a autant de gens qui sont au bout de la chaîne à consommer. Pardonnez-moi, mais ça fait des décennies qu'on n'a pas vu des campagnes de prévention sur les dangers.
Oui, mais attendez.
Ouais.
Regardez.
Alors, attendez, moi je...
Oui, d'accord, mais regardez ce qui se passe dans le RIF. Le RIF, ça fait je crois, 30 à 40 ans qu'on parle du RIF au Maroc. Bon, on sait que c'est la zone de production, pas de la cocaïne, mais du cannabis majeur, et on ne fait strictement rien. On ne fait strictement rien. Moi, je suis allé me balader au Maroc assez récemment. Dans le RIF, on vous demande de ne pas y aller, mais quand vous y allez protégé. Hein, voilà. Il y a des champs de cannabis partout. Mmh. Partout. Et pendant des années, on nous a dit « Ah oui, mais on va essayer que les agriculteurs se reconvertissent avec des
donc
aides,
la légalisation,
etc. »
parce qu'on parle de
tout
ça
passe,
partout.
Tout passe au-dessus de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on en parle.
Poser la question sur le cannabis. A
fortiori, maintenant, avec la cocaïne qui est transformée en Amérique du Sud.
Moi, je ne crois pas à la légalisation. Hein. Enfin, si on part sur cette logique-là...
Ben, on pourrait l'expérimenter au moins,
oui, mais enfin,
dans
si
certaines
on part
zones,
sur
comme
logique,
le propose le maire de Bègle.
Si on part sur cette logique-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, il faut aussi légaliser la cocaïne, c'est puisque de la même
chose.
Façon, on
c'est
maîtriserait le marché, on contrôlerait la qualité...
J'entends
ça, mais, oui, mais ça ne réduit pas la consommation.
Il y a des expériences.
Non, mais au moins, ça réduit
pas la consommation.
Ça contrôle le trafic, non ?
On peut la voir, on la rend visible et on peut la traiter au niveau sanitaire.
En tout cas, c'est extrêmement inquiétant.
C'est inquiétant. En tous les cas, c'est un rapport qui est très bien fait. On n'a pas eu le temps de parler de la Nouvelle-Calédonie. On en parlera évidemment demain et dans les infos et les autres émissions. Merci à tous les quatre pour
ce moment.
Et dans un instant sur Sud Radio, bien sûr, vous avez rendez-vous avec André Bercoff. À demain.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir, de faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. La main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère ou une grande sœur pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur. De l'utopie, d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face aux tremblements. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.